L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Gloire à Dieu. Êtes-vous prêt maintenant à aller dans la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Romains chapitre 15 et le verset 13. Romains chapitre 15 et le verset 13. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On te remercie, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui est dans cette place. Seigneur, je prie que chaque personne ici puisse recevoir une touche surnaturelle de ta part. Merci, Seigneur Dieu, que ta parole est prononcée, déclarée ce matin et que cette parole touche les cœurs, elle est déposée dans les cœurs et nous déclarons qu'il n'y a aucun démon de l'enfer qui va voler la semence de cette parole, mais nous déclarons aujourd'hui les fruits, beaucoup de productivité spirituelle dans le cœur de chaque personne. Merci aussi pour nos internautes, nos amis sur Internet, à la radio, pour chaque personne qui va recevoir ce message. Merci que ton onction détruit les jougs ce matin et nous recevons au nom de Jésus cette parole qui transforme nos vies. Amen. Amen. Dans Romains chapitre 15 et le verset 13, il est écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Hey, c'est bénissant juste ça. Je suis déjà béni. Romains 15, 13, je vais le relire. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu que je sers, c'est un Dieu d'espoir. Il n'y a jamais aucun temps où je peux me tourner vers Dieu et Dieu va me dire, écoute, il n'y a rien à faire. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Avec le Dieu que je sers, il y a toujours de l'espoir. Avec le Dieu de ce livre, la Sainte Bible, il y a toujours de l'espoir. Amen. Il y a toujours de l'espoir en Dieu. C'est pour ça que ce texte-là me bénit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Avez-vous besoin d'être rempli ce matin? Mais peut-être vous avez besoin d'être rempli de l'espérance de ce Dieu d'espoir. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Lorsqu'on est dans l'espoir, on est dans la joie, on expérimente la joie de Dieu. Et de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Une des choses que je veux souligner ici, des fois, on a parlé de la foi, et c'est merveilleux de parler de la foi. On a enseigné les mécanismes de la foi, comment fonctionne la foi. C'est très important d'enseigner ces choses-là. C'est important de comprendre comment fonctionne la foi. Mais ceci dit, on ne doit pas oublier la puissance surnaturelle de l'espoir. Et souvent, on a comme méprisé l'espoir parce qu'on a compris l'espoir selon la pensée du monde. Selon la pensée du monde, l'espoir, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne représente pas quelque chose de puissant. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, « Bien, j'espère bien gagner la loterie. » Ça, c'est la pensée du monde. Okay? J'espère. J'aimerais bien vivre ceci ou cela. J'espère que ça va marcher. J'espère. Et admettons, quelqu'un est là et dit, « Bien, j'espère de devenir un médecin un jour. J'espère. » Et juste la façon que je l'ai dit, vous pouvez voir qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de confiance dans cet espoir-là. N'est-ce pas? Mais si je suis à l'université, j'étudie pour devenir médecin et je dis « j'espère de devenir un médecin ». Là, on pourrait dire « ben, comment ça? L'espoir, est-ce que c'est inférieur à la foi? » Comprenez ceci, que l'espoir, c'est en fait les ingrédients de la foi. Sans l'espoir, on ne peut pas avoir la foi. Parce que la foi, on va le voir ensemble ici, mais c'est la substance des choses qu'on espère. Donc, on doit avoir de l'espoir, mais on va voir l'espoir biblique. Ce que Dieu veut dire par l'espoir. Parce que Dieu nous donne de l'espoir et on a besoin d'entretenir cet espoir-là pour expérimenter une vie victorieuse par la foi. Donc, la foi et l'espoir fonctionnent ensemble et lorsque les deux viennent ensemble, il y a des explosions dans nos vies. Donc, gloire à Dieu, on va le voir ensemble. Peut-être aujourd'hui, vous êtes là et vous dites, « J'ai des difficultés dans ma vie. » Nous avons tous des défis dans la vie et il y a toujours des difficultés. Peut-être votre défi ou votre difficulté, c'est au niveau de votre emploi. Peut-être vous êtes dans un travail que vous trouvez difficile. Peut-être vous avez de la difficulté dans votre emploi. Peut-être vous avez de la difficulté dans votre foyer. Peut-être dans votre couple, ça va mal. Peut-être c'est dans votre santé. Peut-être c'est dans vos finances que vous expérimentez de la difficulté. Peut-être c'est dans votre ministère. Peu importe, on peut éprouver des difficultés dans notre monde. N'est-ce pas? Amen. Ouais. Et ça va toujours, ces difficultés-là sont réelles et c'est des situations réelles qui vont nous enlever ou venir attaquer notre espoir. Okay? C'est une chose importante. Donc, il va y avoir des situations réelles dans ma vie. Admettons que vous recevez un rapport médical et puis c'est un rapport qui vous dit il vous reste un mois après quoi vous décédez. Admettons que vous entendez un rapport comme ça, il vous reste un mois à vivre, mais ce rapport médical vient de rentrer à votre oreille et puis là, finalement, vous êtes découragé ou même désespéré parce que vous venez d'entendre quelque chose de négatif, une difficulté qui est vraiment réelle. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne dira pas qu'il n'y a pas de difficulté dans notre monde. Il y a des difficultés, il y a des choses difficiles parfois dans lesquelles on peut se retrouver, mais peu importe les difficultés, il y a toujours de l'espoir en Dieu. Et c'est ça qu'on va voir. Peu importe les difficultés, il y a toujours de l'espoir en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on vient de voir que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Imaginez, si j'ai de l'espoir dans mon cœur, je vais avoir de la joie et de la paix. Je le relis. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous puissiez abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On pourrait décortiquer ça pendant une heure, on ne le fera pas. Mais je vous laisse méditer là-dessus à la maison. Et dans le psaume 71, verset 14, il est écrit, « Et moi, j'espérerai toujours, je le louerai de plus en plus. » Si vous expérimentez de la difficulté dans un des domaines que j'ai énumérés ce matin, ou peut-être vous dites, « Moi, chaque chose que tu as énumérée, pasteur, moi, là, ça me concerne, chaque chose. » Mais ici, on voit le psalmiste qui dit, « Moi, j'espérerai toujours, je le louerai de plus en plus. » Ça veut dire, si ça va mal, je vais le louer. Si ça va très mal, je vais le louer encore plus. Comprenez-vous? Quand ça va être super, 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 hyper mal, je vais le louer encore plus. Parce que lorsque je loue mon Dieu, Dieu a dit, il va habiter la louange de son peuple. Il va habiter, il va venir sur moi. Il va venir me rafraîchir dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Là, mon rôle là-dedans, s'il y a des épreuves dans la vie, des difficultés, j'ai un rôle que Dieu me donne dans Josué chapitre 1 et le verset 9. On va voir ça rapidement, mon rôle à jouer là-dedans. Et après, on va voir la puissance de l'espoir. On va voir la vision biblique de l'espoir. Ce n'est pas juste quelque chose comme dans le monde. « Ah, j'espère bien que cela va arriver. » Et finalement, c'est un espoir qui n'a pas vraiment de puissance. Mais l'espoir biblique, on va le voir ensemble. Amen. Josué 1, 9, il est écrit. Dieu qui parlait ici à Josué, « Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Dieu dit à son homme, Josué, « Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » C'est ça que Dieu disait à Josué. Josué avait une destinée. Il était pour entrer dans la terre promise. La terre promise était là devant lui. Mais Dieu lui dit, il dit, il dit ici, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Je dois prendre mon courage en Dieu. Je vais saisir le courage, je vais saisir la foi. « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Voyez-vous la clé? Ici, pasteur Jérémie à Tefila ce matin, il nous a exhortés sur l'esprit de crainte et vraiment faire attention de ne pas marcher dans un esprit de crainte parce que la crainte, ça vient nous voler ce que Dieu en réserve pour nous et ça vient nous neutraliser dans ce que Dieu veut qu'on fasse. Et puis ici, la raison, on peut marcher par la foi, dans la joie, dans la paix, c'est parce que Dieu a dit, il serait là avec nous. Voyez-vous ici? Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est merveilleux de savoir. Dieu est avec moi. Oui, il peut avoir des difficultés, Mais Dieu est avec moi et il n'y a rien de trop grand et d'impossible pour mon Dieu. Quand quelqu'un dit « c'est impossible, ça n'arrivera jamais », ils viennent d'appuyer sur une touche ici qui dit « c'est possible ». Parce que ce que l'homme a dit est impossible, pour Dieu est possible. Amen. Si vous me dites « ça, c'est impossible », dans mon esprit, j'entends « possible ». C'est comme ça que je fonctionne. J'entends des fois des personnes parler et j'entends des versets dans ma tête qui contredisent. J'entends des choses dans ma tête. Vous allez dire, il entend des voix, lui. Alléluia, j'entends des voix. J'entends la voix de Dieu. Je l'entends ici. Puis des fois, on entend même des choses dans l'auto. On écoute la radio chrétienne, des choses de défaite. Ça va aller de pire en pire. Oh non, moi je vais de gloire en gloire. J'entends des versets dans mon esprit. Et Dieu me dit, non, non, écoute pas ça. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge, crois pas ça. Amen. Gloire à Dieu. Ça dit dans le psaume 43, le verset 5, « Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu! Espère en Dieu, car je le louerai encore! Il est mon salut! » Ce qui veut dire délivrance. « Il est mon salut et mon Dieu! » Gloire à Dieu! « Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi ça va mal comme ça, mon âme, là, dans le cœur? » Vous êtes là puis vous sentez « wesh » à l'intérieur. Avez-vous déjà senti comme ça? Levez pas la main. Mais vous sentez tout croche en dedans, puis triste, puis malheureux. Et là, on voit dans ce texte-là, « Mais pourquoi t'es comme ça? » Ici, le psalmiste dit « Pourquoi t'es comme ça, mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de toi? Espère en Dieu! » Il est en train de se brasser à la cage ici, comprenez-vous? Il est en train de se donner un coup de pied à quelque part. Puis il dit, espère en Dieu, replace ton espoir dans le Seigneur. Et c'est bon ça, espère en Dieu, car je le louerai encore. Vous voulez Satan, là, vous voyez ici, là, Satan ne veut pas qu'on loue Dieu. Quand ça va mal, il ne veut pas qu'on loue Dieu, il veut qu'on se retire de notre relation avec Dieu, qu'on se décourage. Mais vous savez, le découragement, c'est l'absence du courage. Mais Dieu qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde, est plus grand que Satan qui veut vous écraser. Le courage est en vous, puis vous vous relevez, puis vous dites, je vais le louer encore. Je vais le louer encore et encore et encore. Et même s'il n'y a rien qui semble fonctionner, je vais le louer encore. Amen. Je voulais juste vous donner ça comme intro pour vous dire ici, j'ai un rôle à jouer au niveau de mon encouragement ou de mon espoir. J'ai un rôle à jouer. Je dois me parler et mettre les yeux sur le Seigneur. Amen. Mais là, on veut mettre de l'équilibre des fois dans nos enseignements sur la foi, parce que oui, la foi, c'est une chose importante, comme j'ai dit, mais on veut comprendre maintenant le rôle de l'espoir. Venez avec moi dans Hébreux, chapitre 11 et le verset 1, et on va le lire dans plusieurs versions. Ici, on va voir ce que Dieu veut pour nous, qu'on puisse vraiment saisir des choses importantes. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, si la foi est composée des choses qu'on espère, à quelque part, l'espoir, c'est rien de négatif, n'est-ce pas? Des fois, les gens disent, ah ben là, l'espoir, c'est juste ça. Dans le monde, oui, il y a une sorte d'espoir qui n'est pas vraiment l'espoir de la parole de Dieu. Mais à quelque part, une forme d'espoir qui est super merveilleuse, parce que, nous voyons ici, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Okay? On va lire maintenant dans King James, version française, je vais vous lire, et c'est ma version préférée pour ce texte. Ça dit, « Or, la foi est la substance des choses qu'on espère. » L'évidence des choses qu'on ne voit pas. Donc, la foi est la substance des choses qu'on espère. Amen. Prenez le temps, là. La foi, c'est la substance de toutes les choses que j'espère de vivre. C'est ça, la foi. Et dans la Bible des peuples, ça dit « La foi, c'est s'accrocher à ce qu'on espère. C'est la certitude des choses qu'on ne voit pas. » Donc ici, on voit tout simplement que l'espoir compte énormément lorsque nous parlons de la foi. Et la foi ne fonctionne pas sans l'espoir. Donc c'est sûr et certain, on doit comprendre l'espoir ce matin. Car la foi est la substance de tous nos espoirs. Je vais vous donner la définition dans le monde séculier de Larousse, du petit Larousse ici, qui nous dit, concernant l'espoir, si on veut juste examiner l'espoir d'une façon juste traditionnelle, bon, Larousse nous dit, c'est attendre avec confiance. L'espoir, c'est attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Voyez-vous ici? Et on va voir d'autres définitions, mais ça, c'est une bonne définition. Être dans l'espoir, c'est d'être là en train d'attendre avec confiance. J'ai prié pour quelque chose, OK? Et puis, j'ai de l'espoir dans mon cœur. Et admettons, j'ai prié pour la manifestation de ma guérison, OK? J'ai la foi là-dedans, je crois que ce que Dieu a dit. Mais en même temps, je dois demeurer dans l'espoir, attendre avec confiance. Parce que des fois, je peux le vivre instantanément. C'est merveilleux quand il y a un miracle comme ça, instantanément. Mais parfois, la guérison, et souvent, devrais-je dire, souvent, c'est progressif. Souvent, la guérison peut arriver d'une façon progressive. Et puis, je pourrais élaborer là-dessus, mais je veux juste vous dire, lorsqu'on est là, dans l'attente de la manifestation, on doit demeurer dans l'espoir de voir physiquement notre guérison. Vous comprenez? Mais si j'abandonne l'espoir, admettons, j'ai reçu la prière, et puis là, j'ai rien ressenti, j'ai vu aucun changement, j'arrive à ma place, je retourne à mon siège, puis je suis là, puis je dis, oh, finalement, ça n'a rien donné, ça. Regarde, j'ai aussi mal, ça fait aussi ci, c'est ça. Sauf que là, j'ai abandonné l'espoir, mais la foi, c'est la substance de tous mes espoirs. Comprenez-vous? Si j'abandonne l'espoir de voir la manifestation, en fait, je suis dans l'attente avec confiance. Je suis là, je suis en train d'attendre avec confiance que ça va se manifester. Voyez-vous l'importance de l'espoir? Il ne faut pas abandonner l'espoir. Moi, je vis dans l'espoir de voir plein de choses que Dieu m'a déjà promis. Mais est-ce que je vois tout ce que Dieu m'a dit? Non, je ne les vois pas tous avec les yeux charnels, mais je peux les voir avec les yeux de mon esprit. Puis on va y arriver. Mais je viens de vous donner la définition de Larousse. Maintenant, si je vais dans un dictionnaire chrétien, Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, juste pour citer la référence, ça nous dit ici, c'est avoir confiance, attendre, désirer, s'attendre à quelque chose. L'espoir, c'est s'attendre à vivre quelque chose avec confiance. Voyez-vous, c'est la même définition. Ça revient à la même chose. J'attends avec confiance. J'attends avec confiance. Et quand on a confiance, on exerce la foi, n'est-ce pas? Amen. Voyez-vous comment ça fonctionne ensemble? Et la définition strong en grec, ça nous dit ici, espérer ou attendre le salut avec joie et pleine confiance. Encore une fois, on parle ici de confiance et d'attente. On attend avec confiance. On attend avec confiance. Mais combien d'entre vous, vous aimez ça, attendre? On n'aime pas ça, attendre, avec confiance. Je me souviens, quand j'étais en Alberta, au Tim Hortons là-bas, là, vous voulez avoir un café? Vous allez attendre. Vous allez attendre. Au Québec, on place notre commande, on prend notre auto, on arrive à la fenêtre, notre café est prêt. Oubliez ça en Alberta. J'ai des Québécois qui étaient là avec nous, puis ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est comme ça. Le monde se relaxe ici. pas de stress, mais ça prend du temps. Il faut avoir la confiance qu'on va avoir notre café un jour. Voyez-vous? Mais ça, c'est moins grave. C'est moins grave que lorsqu'on a prié pour quelque chose qu'on aimerait voir rapidement et ça prend du temps. Mais c'est pour ça qu'on doit demeurer dans l'espoir. Et j'ai trouvé une autre définition que j'ai trouvée super intéressante. Et au début, je peux vous mettre en garde. Vous allez être là puis vous allez dire, oh, non, c'est bizarre ça, là. C'est bizarre. Vous allez voir ça. Vous allez me dire que je suis bizarre ou la personne qui l'a défini était bizarre. Mais si vous me donnez 2 minutes après, je vais vous expliquer des choses. Êtes-vous prêts? Alléluia, gloire à Dieu. La définition d'Andrew Womack, c'est un prédicateur que j'ai découvert récemment, puis je trouve qu'il est vraiment intéressant. Il a défini l'espoir comme ceci. L'imagination positive. Quand on parle de l'imagination, souvent on pense aux contes de fées de nos enfants, n'est-ce pas? Puis on dit aux gens, bien, sois réaliste, voyons ça, c'est dans l'imaginaire. Et on pense que l'imaginaire, c'est quelque chose de négatif, parce que souvent c'est relié à nos enfants. Quand on était petit, on s'imaginait qu'on était pour être astronaute, admettons. Okay? Vous vous imaginez, moi quand je vais être grand, je vais être un astronaute. Puis là, on s'imagine. Et puis, je vais avoir une maison sur la Lune. Hein? Et je vais avoir une piscine creusée avec plein de petits poissons, là, sur la Lune. On s'imagine, puis on dit, bien, c'est pas très réaliste, n'est-ce pas? Mais si on comprend le mot imagination, il y a le mot image. Et puis, dans la Bible, nous retrouvons plusieurs places où Dieu nous parle de notre imagination. Et quand on parle d'imagination, on parle de pensée. Donc, si on arrive à comprendre vraiment, si on enlève la pensée que c'est juste pour les enfants, mais que Dieu nous a donné de l'imagination, on peut utiliser cette imagination pour être dans l'espoir. Et je vais vous montrer pourquoi, et bibliquement. Amen? On va voir, c'est super merveilleux. Donc, Andrew Womack a traduit ou a défini l'espoir par l'imagination positive. Traduction, c'est une méditation biblique, mais en images. Donc, vous méditez la parole de Dieu avec des images. Puis ça, c'est vraiment merveilleux quand on comprend comment on fonctionne, comment l'être humain fonctionne. Et la semaine passée, je vous ai parlé d'un éléphant rose, je crois. N'est-ce pas? Bleu. Hé, hey, vous êtes bon! La semaine passée, je vous ai parlé d'un éléphant bleu et en plus, vous vous en rappelez une semaine plus tard. Vous avez même été capable de me corriger. C'est merveilleux, ça! Hallelujah! Pour les éléphants bleus dans votre tête. Mais sérieusement, voyez-vous comment vous avez mémorisé ça? Parce que vous l'avez vu dans votre tête. Vous avez vu un éléphant bleu, n'est-ce pas? Mais si je vous avais cité le verset qui allait avec mon illustration, combien d'entre vous vous rappelez du verset? Vous ne vous rappelez même pas du verset. Mais vous vous rappelez de l'éléphant bleu. C'est merveilleux. Je viens de vous prouver que l'être humain fonctionne avec des images. Si je vous demande la question, comment faire pour aller manger à tel restaurant? Je vais dire non. Aller au centre d'achat de Granby. Okay? Je veux m'en aller au centre d'achat, les halls de Granby. Oh, ça n'existe plus, ça. Excusez. Un centre d'achat à Granby. Les galeries. Okay. Je veux aller aux galeries de Granby. Dites-moi le chemin. Et là, vous devez vous préparer et m'expliquer le chemin. Vous allez voir probablement la rue principale. Dans votre tête, vous allez commencer à voir le chemin ou peut-être une carte routière. Peut-être que vous allez commencer à avoir une carte dans votre tête si vous fonctionnez comme ça. Mais à quelque part, vous allez voir des choses, n'est-ce pas? Vous allez voir le chemin. Ah, on tourne à droite, on tourne à gauche. Vous le voyez dans votre tête. C'est comme ça. Vous ne voyez pas T-O-U-R-N-E-R, tourner A. Vous ne voyez pas l'épellation, vous ne voyez pas des mots, vous voyez des images. Parce que l'être humain pense en images. Vous pensez en images, c'est sûr et certain. Si je vous parle, par exemple, la semaine passée, je vous ai parlé d'un éléphant bleu. Cette semaine, je vous parle d'un lapin rose. Vous voyez un lapin rose en ce moment, n'est-ce pas? Je vous parle d'un lapin rose, mais je vous parle d'un lapin rose obèse. Tout d'un coup, vous avez une autre image, n'est-ce pas? Qui mange beaucoup de carottes. Ce que vous voyez, c'est plein de carottes autour de lui, là. N'est-ce pas? Et qui saute partout, partout. Et dans ma maison, il a brisé plein de pots. Il a brisé plein de choses. Je le laisse rentrer à ma maison, puis là, il sautait partout, là, dans mes rideaux. Vous venez de voir une scène terrible, n'est-ce pas? Hallelujah! Vous dites, hey, mon pasteur, il est loin aujourd'hui, il nous parle d'éléphants et de lapins. On va y arriver. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. L'être humain pense en images. Et si je demeure dans l'espoir, mon imagination ou mes pensées doivent être selon les pensées de Dieu. Puis on va voir pourquoi. On va voir ce que Dieu nous dit. Dans Habacuc 2:2, vous allez voir ici, le nouvel âge emprunte des principes bibliques. Ne confondez pas le nouvel âge avec la parole de Dieu. Ne pensez pas ici que c'est des principes nouvel âge. Satan n'a absolument rien sur Dieu. Satan, c'est un imitateur. Amen. Il y a une personne qui a dit amen. Amen. Satan imite. Il imite, mais il n'est pas créatif. Je vais vous le prouver bibliquement ici, concernant l'imagination. Que votre pensée est en image. Puis ici, on va voir certaines choses concernant la puissance de la vision spirituelle. Dans Habacuc 2:2, dans King James français, ça dit « Et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. » Donc, Dieu a donné une vision ici à son prophète Habacuc, puis il dit « Écris la vision, écris ce que tu vois. » Écris ce que tu vois. Dieu lui a donné une vision pour comprendre un message. Ensuite, il dit, et dresse-la clairement sur des tablettes. Ensuite, c'était écrit. Mais premièrement, il a reçu en vision. Il a vu de ses yeux naturels ici, ou peut-être même spirituels, dépendamment de la sorte de vision. Et là, ensuite, c'est afin que celui qui la lit puisse courir. OK, ensuite, on va aller dans Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18, encore dans King James, ça dit, « Où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui garde la loi, heureux est-il. » Donc, « Où il n'y a pas de vision de Dieu, en parlant d'une révélation de Dieu ici, le peuple périt. Si je n'ai pas la vision de Dieu devant moi, je vais périr. Celui qui n'a pas une vision, admettons, je ne vois absolument rien devant moi, je vois juste noirceur. Mais la Bible me dit, je vais périr. Parce que ici, je n'ai pas d'espoir, je n'ai aucune vision, je n'ai pas d'espoir, je vois juste le noir devant moi, je vois juste l'impossible, et l'impossible me détruit par en dedans. Je suis comme découragé, déprimé, désespéré. Donc, c'est important ici, où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais vous ne voulez pas périr, n'est-ce pas? Donc, vous avez besoin d'avoir la vision de Dieu pour votre vie. Amen. Donc, on va aller ensemble dans Proverbe 23, verset 7 maintenant. Proverbe 23, verset 7. Je vais vous lire dans plusieurs versions ici. Ça nous parle de l'être humain, l'homme. Un verset qu'on connaît bien. Il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Je suis ce que je pense. Si je médite sur quelque chose, cette méditation-là, OK, a des images et je deviens ce que je vois. Vous allez le voir ici, bibliquement, je vais vous le prouver d'après la parole de Dieu. Donc, l'homme est comme les pensées de son âme. Si je ne crois pas que Dieu m'appelle à faire quelque chose, par exemple, quand j'étais à l'antenne de TV, quelqu'un m'a demandé, « Toi, est-ce que tu es surpris d'être à la télévision? Est-ce que tu es surpris de te ramasser ici? » On m'avait demandé ça. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que je l'avais toujours vu. Je le savais. Je l'ai toujours vu avant de l'expérimenter. J'étais petit. Je me regardais dans le miroir, puis je me prêchais ça devant le miroir. Hallelujah! Jésus veut que tu sois guéri. Puis j'étais petit. Puis je me regardais dans le miroir. Puis je faisais ça. Vous allez dire, il est tombé sa tête. Dites ce que vous voulez. Hallelujah! Mais j'avais une vision de Dieu pour ma vie. Et je pouvais voir au-delà du miroir. Amen. Là, ça nous dit dans King James, l'homme est tel qu'il pense en son cœur. L'homme est tel qu'il pense en son cœur. C'est pour ça que Satan va tout faire pour changer vos pensées, pour vous empêcher de penser ce que Dieu veut que vous pensiez. Il va tout faire pour semer ses pensées dans vos pensées. Parce que si vous faites penser ses pensées à lui, vous allez être découragé et vous n'entrerez pas dans ce que Dieu a en réserve pour vous, n'entrerez pas dans la vision de Dieu pour votre vie, parce que vous pensez la vision de Satan. Voyez-vous? Écoutez bien. Dans la version Darby, c'est dit, « Comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Dans Crampon, c'est dit, « Il ne vaut pas plus que les pensées de son âme. » L'être humain, l'homme, ne vaut pas plus que les pensées de son âme. C'est spécial. Et dans Nouvelle Bible Seconde, « Il est tel que sont ses arrière-pensées. » Voyez-vous, c'est comme tout ce qu'on a là, dans nos arrière-pensées. Admettons, vous devez chanter ici à EVQ, admettons. On vous demande de chanter, on vous a entendu, on sait que vous avez un talent formidable, admettons. Une onction sur votre vie. Mais dans votre arrière-pensée, vous avez entretenu la pensée, tu chantes mal. Tu chantes mal, les gens vont rire de toi. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai chanté à l'église, j'avais 5 ans. En fait, je n'ai pas vraiment chanté. Je me suis présenté, c'était dans le temps en tout cas à l'hiver, puis j'étais pour chanter, et puis j'avais 5 ans, et puis j'étais pour, habituellement, je chantais avec une cassette audio. Puis là, dans l'église où j'étais, ma mère n'avait pas pensé d'apporter la cassette audio, pas pour parler contre elle, mais elle n'a pas apporté la cassette. Puis là, le petit Joel Spinks, il fallait qu'il chante de même. Là. Puis j'avais jamais fait ça, à 5 ans, là. Puis là, j'étais comme ça, là. Puis là, je me suis mis à pleurer, puis j'ai couru en bas. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens étaient comme, oh! Ils me trouvaient que j'étais cute. Mais moi, là, je pensais pas qu'ils pensaient que j'étais cute, je pensais qu'ils riaient de moi. Puis là, j'étais comme, je suis parti, puis je suis parti en pleurant. L'année d'après, j'ai eu ma chance. Là, j'ai dit, ben maman, je veux avoir la cassette. Ah, OK, on a mis la cassette. Là, j'ai chanté avec la cassette. Mais j'aurais pu dire, ben non, les gens rient de moi. Regarde, je ne pourrais jamais chanter parce que je ne suis pas bon. Les arrière-pensées qu'on a entretenues peuvent nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu veut qu'on fasse. Ça fait du sens, ça? Donc, mes arrière-pensées, tout ce que j'ai dans un scénario, dans mes pensées, Dieu là, va nous montrer ce qu'on va faire avec. Mais nous, une des choses importantes ici, là, c'est que si l'homme est comme les pensées de son âme, comme j'ai dit 50 millions de fois, on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Ça, on le sait déjà. Mais là, pour être dans l'espoir, pour demeurer dans l'espoir, on doit arriver à cette place où on peut voir avec les yeux de notre cœur avant de voir avec les yeux de notre chair. C'est là où tout joue. Là. Si je suis capable de voir avec les yeux de mon cœur, je vais être capable de voir avec les yeux de ma chair. Le frère Womack racontait une histoire quand il priait pour une dame qui était aveugle, littéralement aveugle. Et puis, il prie pour cette femme pour qu'elle commence à voir, pour qu'elle soit guérie. Il dit, « Maintenant, dis-moi ce que tu vois. » Et puis, elle s'ouvre les yeux. Il dit, « Je t'ai pas dit d'ouvrir tes yeux. Ferme tes yeux. » Il prie au nom de Jésus, « Sois guéri. » Il dit, « Maintenant, ce que tu vois. » Elle ouvre les yeux. « Je t'ai pas dit d'ouvrir tes yeux. Ferme tes yeux. » Mais comme, « C'est quoi cette affaire-là? » Elle ne comprenait rien. Il dit, « Maintenant, il dit, je te dis, tu es guéri au nom de Jésus. Est-ce que tu vois? Garde tes yeux fermés. Est-ce que tu vois? » Ben, elle dit, « Ah! Est-ce que tu te vois guéri? » Elle a dit, « Oui, je peux me voir en train de voir. » Il dit, « Ouvre tes yeux. » Elle a ouvert ses yeux puis était guérie. Parce que, ici, elle était dans l'espoir, puis en même temps, elle a vu dans son esprit la réalisation avant de vivre la chose. Et puis, c'est puissant quand on réalise ici qu'on doit être capable de voir spirituellement avant de voir avec les yeux de la chair. Si on prie pour votre guérison, mais admettons, vous voyez toujours malade, puis vous entretenez l'image que vous êtes malade. Vous l'entretenez, non, ça ne marchera pas. Ou même si vous priez, vous avez l'espoir, mais vous voyez, je sais que je vais être malade. Vous êtes incapable, admettons, de vous voir guéri. Si vous êtes incapable de vous voir guéri, ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre du temps avec Dieu dans sa parole et juste laisser le Seigneur vous montrer par la puissance de sa parole les versets. Moi, ce que j'aime faire, là, et c'est ça, en fait, l'imagination positive, en fait, c'est de méditer la parole de Dieu dans le sens qu'on ne va pas juste méditer des mots sur une page, on va laisser l'Esprit de Dieu nous révéler avec des images. On va imaginer la Bible. Puis vous dire, c'est quoi cette affaire-là, imaginer la Bible? Admettons le psaume 23. Si on va dans le psaume 23, vous connaissez ce texte-là, on va faire l'exercice ensemble. Psaume 23, un beau passage ici. Regardez bien, le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Là, si je médite sur ce texte-là, « je ne manquerai de rien », qu'est-ce que je vois dans mon esprit? Moi, je vois l'épicerie, je vois des sacs d'épicerie. « Je ne manquerai de rien ». Alléluia, oh merci Seigneur Dieu, l'épicerie, j'ai plein d'épicerie chez moi. Pouvez-vous voir l'épicerie chez vous? « Je ne manquerai de rien ». Et là, je peux commencer à louer mon Dieu. Oh, merci Seigneur Dieu, je vois, là, je ne manquerai de rien. Si, admettons, chez vous, le problème, c'est l'électricité. Hydro-Québec vous a débranché parce que vous n'avez pas l'argent pour payer. Merci Seigneur Dieu, parce que je ne manquerai pas de chaleur. Je sais, Seigneur Dieu, tu t'entreprends pour. Là, vous méditez sur la parole de Dieu au lieu de juste la lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, me faire reposer dans le verre partirant. Puis là, ça ne donne absolument rien dans ma vie spirituelle. Mais si je prends le temps, là, je médite, l'Éternel est mon berger, juste là, vous pouvez méditer là-dessus. L'Éternel est mon berger. Pas celui de Jean-Jacques puis de Janine, là. Mon berger. Peut-être aussi son berger à elle puis à lui aussi, là. Mais premièrement, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Est-ce que je suis en train de voir de la neige, là? Non, je ne vois pas de la neige, là. Puis des roches. C'est pas ça que je vois, là. Il me fait reposer avec plein de bois puis plein de choses piquantes. Non, non. Non, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Là, je peux méditer sur la parole de Dieu. Les eaux paisibles, entendez-vous les courants d'eau? On peut prendre le temps pour méditer. Si vous prenez le temps d'apprendre ces textes-là, puis d'expérimenter et d'imaginer la Bible. Ça peut sembler comme, oh mon Dieu, c'est bizarre. Mais vous prenez le temps d'imaginer la Bible, vous allez vous en rappeler. Vous allez vous en rappeler. Et puis le même frère, il disait, le frère Womack, il dit, moi, je ne prends pas de temps à mémoriser littéralement la Bible. Il dit, je prends tellement de temps à l'imaginer que je la mémorise comme ça. Pas par l'exercice. OK, là, aujourd'hui, il faut que je mémorise le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hein? On est comme ça des fois. Mais si, au contraire, je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis vous rencontrez un frère qui dit, ah, mais moi, je n'ai pas d'épicerie cette semaine. Puis là, vous dites, hey, bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez l'épicerie chez vous. Puis mon frère, je sais que Dieu va entreprendre, puis peut-être même vous allez être la personne pour aider. Là. Mais voyez-vous, les versets vont venir en vous comme ça. Parce que vous avez pris le temps de méditer et de voir ce que Dieu voulait que vous voyiez. Et ce frère-là disait, vous savez, la Bible dit qu'on va faire les œuvres de Jésus. La Bible dit ça, qu'on va faire les mêmes œuvres, et même en plus, et même plus grandes. Mais il dit, là, j'ai commencé à penser que Jésus avait ressuscité les morts. Il dit, moi, ressusciter les morts, voyons donc, je ne peux pas me voir en train de ressusciter les morts. Mais là, il dit, ben attends une seconde. Il dit, si Dieu le dit, je dois arrêter, puis méditer ce verset-là qui dit, je vais ressusciter les morts. Puis là, il prenait ce texte-là, puis là, il laissait l'Esprit de Dieu lui montrer comment il était pour faire. Puis il méditait sur la parole de Dieu. Puis là, il y avait un tableau de résurrection dans son esprit. Ce qui s'est produit, son fils est mort. Pendant 4 heures, il est mort. Mais il avait tellement vu à l'avance qu'il était capable de ressusciter les morts. Lorsqu'il est allé vers son fils, il a prié pour son fils et puis il a ressuscité des morts. Parce qu'il avait pris la parole de Dieu, pas d'une façon juste mémorisée dans la tête, mais de vivre pleinement en l'imaginant. Gloire à Dieu. Puis quand on a l'image de Dieu pour notre vie, on est rempli d'espoir. On est rempli d'espoir parce que là, on est dans l'attente de la pleine manifestation, peut-être, mais je suis dans une attente confiante. Je suis dans la confiance de cette manifestation-là parce que je suis rempli d'espoir. Et la Bible me dit de joie et de paix. Je suis rempli de joie. Comment ça? Parce que je sais que mon Dieu, je l'ai déjà vu avec les yeux de l'Esprit. Alléluia, il faut que je me dépêche. OK, je vais vous le prouver bibliquement. Vous êtes toujours avec moi? Vous ne dormez pas encore? OK, je vais vous donner d'autres versets. 2 Corinthiens 4, 18. Ici, l'apôtre Paul nous dit, c'est ça qu'il faisait lui. 2 Corinthiens 4, verset 18. L'apôtre Paul dit, « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc, l'apôtre Paul, il dit, « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Je regarde les choses qui sont invisibles. N'est-ce pas merveilleux? Vous dites, ben là, regardez les choses invisibles. Comment est-ce qu'on fait regarder aux choses invisibles? On regarde avec les yeux de l'Esprit. On regarde avec les yeux de l'Esprit. Hallelujah! Quand on a ouvert l'église, dans notre église en Alberta, la première année, on était 100 personnes. Deuxième année, 200 personnes. Troisième année, 300 personnes. Et quatrième année, 400 personnes. On voyait une progression. Et gloire à Dieu. Puis quand j'ai quitté l'église pour venir ici, là, ce qui s'est produit en quittant, en déménageant ici au Québec, en revenant, là, je partais de cette église-là, mais ce que je voyais dans l'église, c'était une assistance d'environ peut-être 30 personnes. OK? Humainement, j'aurais pu partir d'une église de 400 personnes à une église de 30 personnes et être démotivé, n'est-ce pas? Est-ce que ça peut être décourageant? Décourageant. On part de 400 à 30, admettons, au démarrage. Bon. Mais là, lorsqu'il y avait 30 personnes, je ne voyais pas juste 30 personnes. Parce qu'avec ce que Dieu m'avait dit, j'avais l'image de ce que Dieu voulait faire parmi nous. 30 personnes. Je voyais au-delà de 30 personnes. Je voyais une église pleine, même au tout début. Et ça, c'est une des choses. Comment? À cause, Dieu me donnait la vision et je m'entretenais avec la vision de Dieu, ce que Dieu voulait faire. Donc, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Gloire à Dieu. Dans Romains 8, 25, « Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Voyez-vous ici encore, on attend avec persévérance. Là, je vais vous donner des preuves bibliques pour l'imagination, parce que certains d'entre vous, vous êtes encore là, puis vous dites, ben là, je ne suis pas sûr. Quand on parle d'imagination, on parle simplement des images, tout simplement. C'est le fait de voir en images, parce qu'on ne voit pas sans images. C'est simple, hein? C'est simple. Si on regarde, admettons, 1 Chronique, chapitre 29, verset 18, ici, je vais vous lire ce texte-là, c'est une prière de David, du roi David, 1 Chronique 29, 18, il dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours, c'est sa prière, le David prie à Dieu, il dit « Maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. » Ici, ce qu'on voit, ses dispositions et ses pensées, là, en anglais, dans la Bible King James, c'est « imagination ». C'est dit ici, maintiens toujours, il prie, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple d'Israël ici, là, maintiens toujours ses imaginations. En fait, ce que le peuple d'Israël venait de faire, il venait d'offrir une belle grande offrande d'amour envers Dieu. Et puis là, David dit, oh Seigneur, fais que ton peuple puisse toujours garder en mémoire ce qu'ils viennent de faire par amour pour toi, qu'ils puissent garder en imagination ce qu'ils viennent de faire. Voyez-vous? Parce qu'il comprenait ici que le peuple devait se rappeler ce qu'il venait de faire, que ce peuple-là aimait Dieu. Mais on ne se rappellera pas « j'ai aimé Dieu » simplement, mais on va se rappeler comment on a aimé Dieu. Comprenez-vous? On va se rappeler qu'on a apporté au temple, justement, les offrandes. On va se rappeler des choses qu'on a faites. On va se rappeler en images. C'est comme ça, une prière de David. Aussi, avant le déluge, dans Genèse 6, verset 5, ça nous dit ici, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées, ou en anglais, imagination, de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Donc, les hommes étaient méchants et puis ils imaginaient constamment comment ils pouvaient être méchants et faire des mauvais coups. L'imagination peut être utilisée pour le mal. Mais savez-vous que l'imagination peut être utilisée pour le bien? Quelqu'un peut penser, concevoir, quand on parle de d'imagination, on parle de conception aussi. Vous pouvez concevoir faire des mauvais coups. Ou vous pouvez imaginer ou concevoir comment vous pouvez bénir quelqu'un. C'est la fête de quelqu'un, puis vous dites, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour bénir la personne? » Et là, vous commencez à avoir des fleurs et une boîte de chocolat. « Seigneur, oui, j'aimerais ça. » Et vous commencez à l'imaginer que vous allez le faire et vous allez le faire. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, là. Quand on parle l'imaginaire, des fois, on pense toujours que c'est l'impossible. Non, c'est possible d'aller acheter des fleurs, n'est-ce pas? Amen, hallelujah. Je suis d'accord avec moi-même. Dans Romains 1, 21, ça nous parle encore ici, en anglais, imagination. Ça nous parle des mauvaises imaginations, les pensées vaines, égarées, insensées. Mais on n'est pas obligé d'avoir des mauvaises pensées, des mauvaises imaginations, on peut avoir des bonnes pensées. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 5, ça dit, « Nous renversons les raisonnements, en anglais encore une fois, nous renversons les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est-à-dire qu'ici, nous renversons les imaginations, les choses que je vois dans ma tête, je vois ces choses-là, là, en images, puis sont négatives, admettons. Mais là, Dieu m'appelle à les renverser. Toutes les choses qui viennent me décourager, je les renverse par la puissance du Saint-Esprit. Et là, je rends toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Comment est-ce que je vais y arriver? Je vais prier, puis je vais dire, « Seigneur, montre-moi ce que toi, tu veux que je voie. » Là, le Seigneur va peut-être dire, « Va lire tel verset. » Et là, vous allez lire le verset. Et là, vous allez méditer. Quand on parle de méditation, on ne parle pas de se mettre en indien, coucher assis comme ça en indien. Là. C'est pas ça. Là. La méditation, c'est de digérer le verset. C'est de se laisser imbibé du verset de la parole de Dieu, mais on ne peut pas se laisser imbiber sans voir ce que Dieu dit. On verra, on ne se rappellera jamais des mots nécessairement, à moins que ce soit juste dans la tête. Quand on le vit, là, on va le voir, on va voir le verset. Et puis, la tour de Babel, vous avez entendu parler de la tour de Babel? Bien, ça nous dit ici que tout ce qu'ils avaient imaginé, que Dieu voulait empêcher ça, toutes les choses qu'ils avaient imaginées dans Genèse 11, 6, et je pourrais continuer. Donc, le découragement, écoutez bien ceci, très important que vous restiez avec moi en ce moment. Le découragement provient de mauvaises imaginations. Les tableaux de tristesse et de défaite, l'abandon, le rejet, les mensonges, plein de mensonges. Ça, le découragement, en fait, c'est comme les mensonges qu'on met ensemble. Et il peut avoir plein de choses véritables également dans notre vie. Et on va rassembler toutes ces choses-là et puis ça va nous décourager. Ce qu'on peut faire, c'est imaginer pour le bien. Et j'essaie de terminer. Vous me donnez encore 5 minutes? Personne qui s'en va, là? Avez-vous entendu parler d'Abraham? Ah, merci, maman. Il y en a d'autres, vous avez entendu parler d'Abraham? OK, gloire à Dieu. Dans Genèse 15, versets 5 à 6. Genèse 15, versets 5 à 6. Dieu croyait dans la puissance de l'imagination. Pourquoi? Bien, on va le voir ici, que Dieu a parlé à Abraham utilisant des images. Genèse 15, versets 5 à 6. C'est dit, et après l'avoir conduit dehors, il, en parlant de Dieu, dit à Abraham, « Regarde vers le ciel. » Et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Regarde les étoiles dans le ciel, Abraham. Regarde. Et là, Abraham voit littéralement avec ses yeux charnels. Il voit les étoiles. Dieu voulait faire ce dessin, ce tableau pour Abraham. Et à chaque fois, il était là. Dort en train de faire son petit feu de camp puis rôtir son agneau, peut-être. C'est hot dog d'agneau. Il est comme ça, il fait rôtir. Là, il regarde le ciel puis il se rappelle la parole de Dieu. Tu vas être le père d'une multitude. Il voyait comme ça. Et dans le même livre, Genèse 22, 17, Genèse 22, verset 17, Dieu avait dit à Abraham, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Et comme le sable qui est au bord de la mer, sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, imaginez Abraham qui est sur le bord de la plage. Quand il marchait là, sur le bord de la plage, ses sandales dans le sable, imaginez à ce qu'il pensait. Imaginez, moi je suis sûr qu'il pensait sûrement à ses descendants, n'est-ce pas? Dieu y avait parlé. Et Dieu se servait d'illustrations, des images pour bâtir la foi en lui, pour qu'il soit dans l'espoir. Parce que quand on a 100 ans, là, on a besoin de l'espoir, n'est-ce pas, pour avoir un enfant. Pensez-vous? Si on dit, ben Dieu l'a dit, je suis dans la foi. Mais pour être dans la foi, il faut avoir de l'espoir que ça va se réaliser. Il faut avoir cette confiance et savoir attendre pour que ça se réalise. Et je termine avec mon dernier point. Gloire à Dieu, le peuple de Dieu se réjouit. Alléluia. L'espoir et la joie sont comme ça. L'ingratitude et le désespoir sont comme ça aussi. Donc, l'ingratitude et le désespoir, c'est comme des jumeaux de la défaite. Mais l'espoir et la joie, c'est la victoire. Amen. Romains 12, 12, ça nous dit, « Réjouissez-vous dans l'espérance. Endurez dans la détresse, consacrez-vous assidûment à ta prière. » Donc, Dieu nous dit ici, il faut se réjouir dans l'espérance. Admettons, j'ai reçu la prière pour telle affaire, mais là, je suis dans l'espoir, je suis dans la confiance, je suis dans la confiance, dans l'attente, et je me réjouis là-dedans. N'est-ce pas merveilleux? Réjouissez-vous dans l'espérance. Et dans Proverbes 10, 28, l'espérance des hommes droits sera une joie. L'espérance des hommes droits sera une joie, mais l'attente des méchants périra. Voyez-vous encore le mot attente? L'attente des méchants périra. Amen. Et, de l'autre côté, l'ingratitude et le désespoir, c'est les jumeaux de la défaite. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, ça dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Quelle est la vision que Dieu a pour votre vie? Choisissez la vision divine pour votre vie. Choisissez de voir ce que Dieu voit pour vous. Mon peuple est péri faute de connaissance, mais aussi sans la vision, le peuple périt. Donc, il faut avoir la vision de Dieu. Et parfois, quand on est dans une situation peut-être difficile, on a du mal à discerner les bénédictions qu'on a dans nos vies. Je peux vous dire, à EVQ, on habite en ce moment dans un miracle. Vous êtes assis dans un miracle. Peut-être vous êtes là, ben comment ça? Bien, parce que de un, je peux vous raconter, quand j'ai eu ma visitation en 2004, Dieu m'avait dit, tu vas travailler avec des gens en Afrique et des gens en France. Dieu m'avait dit ça, et puis Dieu m'avait montré mon implication au Québec, tout ça. Mais comment ces choses-là étaient pour arriver, je ne savais pas, mais Dieu a tout orchestré. Et aussi, dans cette visitation-là, il me dit, l'emphase de l'Église, du ministère, ça va être les médias, et tu vas rejoindre des gens partout à travers la francophonie. Aujourd'hui, on est assis ensemble dans une place où on rejoint les extrémités de la terre par Internet. Et où Dieu a façonné, a formé une équipe ici, et vous êtes membres de l'équipe. Et non seulement ça, il y a plein de choses que Dieu a fait parmi nous, entre autres comme l'IBEM, où les gradués de l'IBEM, d'ici quelques temps, même au mois de septembre, je vais vous annoncer des choses à venir, où les gradués vont passer à l'action maintenant. Vous savez, on peut être formé, mais il faut aussi redonner ce qu'on a reçu dans l'œuvre du ministère. Et puis, il y a plein de choses que j'ai à cœur que je vais vous partager d'ici quelques semaines. Mais imaginez, on vit dans un miracle, parce que c'est Dieu qui a orchestré tout ça, c'est pas moi. J'étais incapable de faire ça. Mais Dieu a orchestré ces choses-là parce que Dieu a un but, et son but, c'est de rejoindre la francophonie avec le message de Jésus, que Jésus sauve. Donc, je suis dans un miracle en ce moment. Il y a des gens qui nous écrivent partout à travers le monde qui nous disent « Notre rêve, c'est de venir vous visiter. » J'ai eu des courriels récemment encore, « Notre rêve. » Même la semaine passée, un frère et une sœur de la Suisse, oui, c'est ça, ils déménagent au Canada et puis ils veulent venir à EVQ. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a fait des choses, mais il faut être conscient, je suis dans un miracle. Est-ce que le miracle est fini? Non. Non, il n'est pas fini. Mais Dieu a fait en sorte que je sois ici, que vous soyez là. À quelque part, on va faire quelque chose, un impact pour le royaume de Dieu ensemble. Bon, sauf que là, il pourrait y avoir toutes sortes de choses négatives que Satan pourrait apporter, mais si on regarde ce que Dieu veut, quelle est la vision que Dieu vous avait donnée la première journée que vous êtes arrivé ici? Première fois que vous êtes venu ici, Dieu vous a donné une vision. Jusqu'à temps que cette vision soit vraiment accomplie, vous savez que Dieu n'a pas terminé. Moi, je sais que Dieu n'a pas terminé. Amen? Dieu n'a pas terminé. Ce qu'il a commencé, il va le compléter. Il va compléter ce que Dieu a dit qu'il ferait. Donc, si vous voulez être dans l'espoir pour votre propre vie, si vous voulez être dans l'espoir pour votre propre vie, je vous donne un défi cette semaine que Pasteur Michael va pouvoir vous envoyer par courriel aussi. Mais je veux vous inviter à faire ceci. Dressez une liste de vos bénédictions dans votre vie. Dressez-vous une liste. Prenez le temps quand vous allez prier et regardez comment Dieu vous a béni dans votre vie. Dressez une liste. Peut-être que vous allez dire, mais merci Seigneur pour ma femme. Merci Seigneur Dieu pour mes enfants. Vous allez dire, peut-être mon employeur, ça c'est une bénédiction dans ma vie. Peut-être que vous allez dire, ben, je suis content que j'ai une auto. Je suis content que j'ai une maison. Ça c'est une bénédiction dans ma vie. Je suis content d'avoir vécu telle bénédiction dans ma vie. Et là, vous commencez à énumérer les bénédictions que vous avez dans votre vie. Je veux vous passer au défi, frères et sœurs. Prenez le temps et dressez littéralement. Vous prenez une feuille de papier chez vous à la maison et commencez à énumérer les bénédictions que vous avez dans vos vies. Et la deuxième étape, ensuite, là, vous priez et vous remerciez Dieu pour ces bénédictions. Dans ma jeunesse, quand j'étais enfant, il y avait un petit cantique. « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. » Prenez le temps littéralement à dresser une liste de reconnaissance envers Dieu et entrer dans un temps de louange. Vous savez, des fois, on peut dire, « Ben moi, je n'ai pas ça dans ma vie, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Mais regardez ce que vous avez. Et là, ce que vous avez, vous louez Dieu pour ces choses-là. Et comme vous louez Dieu et vous voyez ce que vous avez, Dieu va multiplier les bénédictions. Les bénédictions vont se multiplier dans vos vies parce que vous allez entrer dans la louange et Dieu va se mettre à multiplier ce qu'il vous a déjà donné. Donc, dressez une liste, louez Seigneur pour chacune de vos bénédictions. Et un bonus, si vous osez aller à l'extrême, vous pouvez même exprimer votre reconnaissance envers une personne que vous considérez une bénédiction dans vos vies. Peut-être si vous dites là, puis vous dites, « Bien, moi, ma bénédiction, c'est ma femme. » C'est ma plus grande bénédiction, admettons. Bien, peut-être que vous pourriez lui dire. Hey, je t'aime, ma femme, tu es une bénédiction dans ma vie. J'aimerais ça te sortir au restaurant. Oh, je sais, ça, c'est radical, là. Si on veut vivre dans l'espoir, ce qu'on a besoin de faire, Si on veut vivre dans l'espoir, on a besoin de voir la bonté de Dieu dans nos vies. On a besoin de voir sa parole. Ce que je vous ai dit ce matin, c'est juste biblique. L'homme est comme les pensées de son âme. Il y a toujours de l'espoir avec notre Dieu. Il y en a toujours parce que notre Dieu est éternel. Et Dieu est ma source d'espoir. Le moment que j'ai plus d'espoir, c'est le moment où je ne crois plus en Dieu. J'abandonne Dieu, puis je dis, ben, il n'y a pas d'espoir. Mais si je dis, non, mon Dieu est éternel, mon Dieu est tout-puissant, mon Dieu guérit encore, mon Dieu délivre encore, mon Dieu pourvoit tous mes besoins, son sa richesse avec mon Dieu est capable de me délivrer de l'oppression, mon Dieu est capable de sauver mes enfants, Dieu est capable de me racheter de cette erreur financière que j'ai faite. Toutes ces choses-là, je suis capable de dire, Seigneur, mon Dieu est tout-puissant, mon Dieu est grand, mon Dieu n'a pas changé, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toutes ces choses-là, je peux dire, oh, il y a toujours de l'espoir. Parce que Dieu est toujours là. Amen. Alléluia. Père éternel, on te remercie pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le privilège ce matin d'imaginer ta parole pour l'expérimenter, pour vivre de l'espoir dans nos vies, pour marcher dans l'espoir et dans la foi. Merci Seigneur Dieu pour cette parole qui nous change. Merci parce que tu nous donnes tous une vision pour notre avenir. Seigneur, je prie ce matin que chaque personne ici qui ont peut-être perdu espoir ou qui ont abandonné pendant un temps la vision que tu leur avais donnée, je prie que tu viennes rafraîchir ce matin, que tu viennes ranimer la flamme et que tu puisses leur donner à nouveau cette vision pour leur vie. Cette vision des grandes choses que tu en réserves pour leur vie. Des grandes choses, des grandes œuvres que tu les appelles à faire. Alléluia, merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu parce que tu parles à tes enfants, tu leur donnes cette vision, tu les remplis d'espoir, de joie et de paix. Alléluia, nous te louons Seigneur Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci pour l'exercice que tu nous donnes cette semaine. Nous allons littéralement compter les bienfaits de Dieu. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te célébrons dans cette place. Nous déclarons ta parole sur nos têtes, sur nos vies. Alléluia, nous déclarons. Nous sommes la tête et non la queue. Alléluia. Toujours en haut, jamais en bas. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ta bénédiction dans nos vies. Merci pour la vie en abondance que tu nous donnes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parce qu'on prend courage. On prend courage en regardant ce que tu nous as dit dans ta parole. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le peuple de Dieu dit amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.